Et tout de suite, c'est sur les docks. Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Voici notre dernière étape dans l'évocation de la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine il y a 50 ans, le 16 mai 1996, entraînant la persécution de dizaines de millions de personnes. Dans le quotidien du peuple, il était possible de lire mardi « Nous ne permettrons jamais qu'une faute telle que la révolution culturelle se reproduise ».
Et à l'été 2013, France Culture avait consacré une grande traversée à la Chine.
Oui, Hervé et Alain Lefkovitch s'étaient rendus dans le village natal de l'ex numéro 1, Mao Zedong. Les témoignages recueillis sont surprenants. Le grand bond en avant avait eu pour conséquence une terrible famine en 1960 et plus de 30 millions de Chinois en étaient morts. Mais dans ce village paysan, c'est un portrait débonnaire du grand timonier qui est dressé en lien avec un tourisme bien organisé au bout de la bretelle d'autoroute qui dessert Shaoshan.
Le président Mao avait un visage très agréable à regarder et on pouvait y voir un homme d'une très grande sagesse. Son visage montrait qu'il était naturellement un leader. Il ressemblait à sa mère, qui était une femme douce et gentille.
La Chine à l'ombre de Mao. Shaoshan, berceau de Mao, au propre et au figuré.
Par Alain Lefkovitch.
La grande traversée.
La grande traversée.
Comment conserver le contrôle des nouvelles élites sociales dans un pays passé au stade aujourd'hui avancé du capitalisme? Lorsqu'en 2009, le Parti communiste chinois pose cette question, c'est que l'enjeu était de taille pour la Chine. Il l'est encore plus aujourd'hui, en proposant de mettre en avant une centaine de sites symbolisant la lutte du parti pour le pouvoir. Le ministère de la propagande crée le tourisme rouge. Les jeunes d'aujourd'hui ont oublié les sacrifices des leaders du parti dans la lutte contre le capitalisme, le féodalisme et l'impérialisme. Ils s'adonnent à l'hédonisme, au culte de l'argent et à l'ultra-individualisme. Ils ont besoin d'une éducation patriotique, expliquait-on alors. Dans la logique nationale conservatrice du pouvoir chinois, ce tourisme rouge n'a en réalité rien de révolutionnaire. Il est destiné à légitimer la dictature du parti unique au nom de l'unité nationale. L'opération sert également à renflouer les caisses des sections locales du parti dans les zones retenues, qui figurent pour la plupart d'entre elles parmi les régions les plus pauvres du pays. Shaoshan, le village natal de Mao, est la principale étape de ce parcours révolutionnaire à travers la Chine maoïste. Afin d'attirer les touristes, de nombreux locaux ont relié le nom de leur restaurant avec le président Mao, comme le restaurant de la famille Mao ou encore le restaurant du Soleil Rouge. Aujourd'hui, les affaires commerciales privées liées au tourisme dans la ville de Mao représentent 80% des revenus. Afin de protéger l'économie locale, la marque Village Shaoshan a même été déposée au bureau des marques de l'administration d'État pour l'industrie et le commerce. Cette Mecque maoïste a même été saluée par l'actuel président chinois Xi Jinping, qui juste avant sa nomination a fait le tour des sanctuaires rouges. Il déclarait alors « Les lieux du tourisme rouge sont une classe vivante pour étudier la tradition et apprendre de nouvelles choses. Ils contiennent une sagesse politique et des aliments moraux. » Ce qui se passe à Shaoshan incarne la croisade conservatrice des hauts cadres du parti. Mao est ici célébré comme un dieu grâce à qui les marchands du temple prospèrent. Le succès durable de l'enthousiasme pour la pensée de Mao Tse-tung, en particulier chez les jeunes, atteste de la recherche et l'intelligentsia d'une foi ultime qui pourrait accélérer l'ascension de la Chine dans le cadre de la crise mondiale. Afin de stimuler le développement du tourisme au Hunan, on a élu les sosies de Mao venus des quatre coins du pays. Zheng Qiang était candidat à ce concours, acteur vedette de l'académie de théâtre de Changsha, la capitale provinciale. Ce sosie l'affirme, il ne joue pas Mao, il est Mao. Qui vous coupe les cheveux comme ça? Il y a un coiffeur particulier qui vous fait cette coupe de cheveux?
Yes, he has.
Oui, j'ai trois coiffeurs professionnels qui s'occupent de moi. Il y en a un qui travaille pour la télévision, un autre pour le théâtre et le troisième qui travaille pour le cinéma. Je suis très occupé et je voyage partout dans la province du Hunan pour mes différentes activités. Alors parfois, quand je ne peux pas avoir de rendez-vous avec l'un de mes coiffeurs, j'arrive toujours à trouver une solution avec les autres.
Et alors, vous avez l'air troublé.
Oui, très très excité parce que le président Mao est le plus grand leader de la Chine.
Vous savez que c'est pas Mao. But you know that it's not Mao, Zhuxi.
Je sais, oui. Oui, je sais. Je sais bien que ce n'est pas le président Mao, le vrai président Mao, mais je suis tout de même très surexcitée.
So now five waitresses are surrounded the chairman Mao.
Maintenant, il y a cinq serveuses qui se sont mises autour du président Mao parce qu'elles veulent se faire prendre en photo avec lui. Et lui est en train de se positionner, la cigarette dans la main, comme le faisait le vrai Mao. Je suis très heureuse et les paroles de la chanson que je vous dédie sont « Quand le président Mao vient nous voir, les nuages disparaissent et nous sommes tous très heureux ».
Est-ce que tous les jours, quand on se réveille, on est Mao ?
Je m'appelle Zhang Qiang, je suis comédien et je joue uniquement le rôle du président Mao. C'est depuis le jour où son corps a été déposé dans son mausolée que j'ai commencé à l'incarner. Beaucoup d'officiels de nombreuses provinces m'ont mis à l'honneur au cours de meetings, de conférences et de dîners. Quand je mets mon costume, je deviens le président Mao. Je me contrains à une discipline quotidienne. C'est une habitude. Même avec des habits normaux, les gens m'accostent pour se faire prendre en photo. Alors, j'essaie de ne pas porter souvent ce costume gris très caractéristique du président Mao.
Est-ce qu'on peut prendre par exemple Mao avait une façon très particulière de fumer? Est-ce qu'on peut donner quelques détails sur la façon de bouger de Mao? Alors, vous avez participé, j'imagine qu'il y a des concours de sosie de Mao à différents âges de sa vie.
J'ai été le meilleur lors d'un concours organisé en 2008 par l'Institut du Théâtre Provincial. Tous les médias ont relaté cet événement. Il y a eu près de 200 candidats provenant de toute la Chine. 100 ont franchi la première étape et ont pu venir dans le Hunan pour participer à ce championnat. Après certaines épreuves, nous n'étions plus que 40, puis 5, puis 3. Moi, je savais que j'avais plusieurs avantages. D'abord, je suis originaire de la même province que le président, et je parle comme lui le dialecte du Hunan. J'ai la même taille que lui, et en plus, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Quand les trois derniers concurrents se sont présentés sur scène, j'ai remporté la palme à l'applaudimètre de tous ceux qui ont voté dans toute la Chine. L'année dernière, le jour de l'anniversaire de Mao, en décembre, je suis allé à Shaoshan et j'y ai rencontré le maire et le secrétaire du parti. J'ai fait un discours en imitant la façon dont Mao s'adressait aux gens de son village natal. Je leur ai dit « Vous devez travailler dur à l'accomplissement du socialisme ». Le maire est ensuite venu me serrer la main et il s'est mis à pleurer d'émotion. Après la cérémonie, tous les officiels sont venus me voir et m'ont dit que je ressemblais vraiment au président Mao.
Les pionniers rouges sont de jeunes garçons et filles de 7 à 14 ans. Leur mouvement pourrait s'apparenter au scoutisme si l'endoctrinement n'était pas la base de l'enseignement quotidien. Premier principe, acquérir un esprit révolutionnaire. Deuxième principe, se pénétrer de la pensée de Mao Tse-tung et des chefs du parti. Troisième principe, se préparer à servir le pays. Les dirigeants de la Chine actuelle préparent l'avenir de la Chine de demain dans des conditions dont l'efficacité ne peut être mise en doute.
Alors on vient d'arriver ici à Shaoshan. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que Shaoshan ?
C'est là qu'est né le plus grand homme du monde. Il y a vu le jour le 26 décembre 1893. C'est ici qu'il a passé toute son enfance. Ensuite, il s'est rendu à Xiangtan et Changsha et dans d'autres villes de la province pour prendre conscience de la réalité et tenter de résoudre les problèmes des pauvres Chinois, qu'il a incité à se soulever pour amener le pays vers l'indépendance. Et là, c'est l'étang dans lequel il est ménagé.
Vous connaissez cette histoire parce que vous êtes une personnalité importante ici à Shaoshan. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Chen Xianghong et je suis la responsable du bureau des affaires touristiques, ici à Shaoshan. J'ai appris mon métier à l'université et quand j'ai fini mes études en 1991, je suis revenue ici, à Shaoshan, pour y travailler. L'année dernière, près de 8 millions de visiteurs sont venus ici. Mais cette année, nous attendons encore plus de monde, car nous célébrons le 120e anniversaire de la naissance du président Mao. L'an passé, nous avons réalisé près de 200 000 euros de bénéfices. Au cours de ces cinq dernières années, nous avons investi 200 millions d'euros pour développer le tourisme. Le gouvernement central a participé à hauteur de 100 millions. Le gouvernement local a mis la même somme et la ville de Shaoshan a également mis un peu d'argent.
Oui, parce qu'il faut dire qu'ici, on est quand même au centre de ce qu'on appelle le tourisme rouge.
Oui, nous sommes dans un lieu symbolique, celui des gens qui se sont battus pour l'indépendance de la Chine et qui ont tout fait pour le pays, notamment pour améliorer le sort des Chinois depuis 1840, après la guerre de l'opium.
Là, on arrive devant, je dirais, la pièce maîtresse de ce lieu, puisqu'on est devant la maison natale de Mao.
C'est dans cette maison que Mao est né. Elle a une architecture caractéristique des fermes du sud de la Chine. Et comme vous pouvez le voir, la famille de Mao était très riche par rapport aux autres habitants du village. Dès 1890, la maison comportait près de 14 pièces. La famille possédait cette terre qui est devant la maison et qui représente une surface d'un hectare et demi.
Alors rentrons dans l'antre de Mao.
Premièrement, je pense que ça évoque quand même une mémoire émotionnelle très forte. Donc les gens peuvent être attirés d'aller faire ce tourisme instinctement.
Chen Yan, sinologue.
Deuxièmement, c'est l'État, c'est les provinces, c'est les unités de travail qui organisent. Paye le séjour, il paye le transport. Et pourquoi pas, c'est bien. Je pense même pour les boîtes privées, c'est surtout les grandes boîtes privées, ils pourraient organiser ça pour montrer aux politiques que je suis fidèle à la mémoire du parti. Donc c'est tout bénéfique sur le plan économique et sur le plan politique. Par contre... De faire les gens y croire encore en l'idéologie communiste. Ça, je ne crois pas.
Hello.
Pour certaines personnes, c'est simplement... c'est un lieu curieux. On y va pour voir un peu qu'est-ce que c'est purement.
Hein, Zhang Lun, économiste et sociologue.
C'est un lieu de consommation. Hein, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que pour certains étrangers ou certaines jeunes générations, tout ça. Bon, il y a d'autres personnes, par exemple, la génération un peu plus âgée, l'ancien garde rouge, jeunes instruits, envoyés à la campagne, etc. Cette période, c'est une partie fondamentale, importante de la vie. Là, même parfois, ils ont de haine, de regret de cette période parce qu'ils ont perdu leur jeunesse, etc. La question, celle-ci, c'est que à quel point ce genre de lieu peut jouer un instrument, un médicament de homéopathie en dose qui endoctrinait les jeunes, les gens qui ne connaissent pas véritablement cette période, etc. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Bien sûr, vous savez, maintenant, la Chine, on gagne de l'argent. Mao, pas Mao, on gagne de l'argent. Pourquoi pas?
Yes. Yes.
Alors vous êtes la fille de Madame Tang, la célèbre Madame Tang, qui ici à Shaoshan fait le plat préféré de Mao, le porc gras. Comment on sait que c'est le plat préféré de Mao ?
Ma famille vivait à 15 mètres seulement de la maison familiale des Mao. Mon grand-père était très proche des Mao. Et donc notre famille était très au courant des préférences de Mao. Aujourd'hui, l'estomac gras de porc est un plat très commun, mais à l'époque on n'en mangeait qu'une seule fois par an, au moment du Nouvel An chinois. Ce qui veut dire que Mao aimait les choses très simples. Et ça nous rappelle aussi combien la vie était dure en Chine à cette époque.
Madame Mao, c'est quoi votre nom? C'est Madame Tang ou Madame Mao?
Le nom de famille de ma mère est Tang, mais celui de mon père, c'est Mao. Et moi, j'ai pris le même nom de famille que lui, Mao. Allons voir ma mère. Ses appartements sont au premier et au-dessus du restaurant.
Il était grand, superbe, et très très beau. Ses sourcils ondulés et très courbés, très différents des autres qui sont en général tout plats. Il avait des yeux magnifiques, tout comme son nez. Quand il souriait, vous imaginez ? Ses mains étaient splendides. C'était un homme d'une beauté extraordinaire.
Madame Tang Zhuizhen est sans doute la plus célèbre des restauratrices de Shaoshan. Son âge canonique ne l'empêche pas de mener son business de main de maître et de diriger tout son petit monde à la baguette. Tout a commencé en 1959, lorsque le président Mao lui rend visite. Un moment immortalisé sur une photo dont elle a fait sa carte de visite et sa marque de fabrique. Nous arrivons dans son salon tandis que Madame Tang se repose en regardant les sept mercenaires de John Sturge.
Je me souviens de cette photo. Elle a été prise au matin du 26 juin 1959. C'était la première fois qu'il revenait à Shaoshan, après 32 ans d'absence. Et il est venu chez moi.
Racontez-moi ce jour, comment ça s'est passé? Il est venu, il a tapé à votre porte, il a dit « je veux aller voir Madame Tang ».
Non, il n'a pas frappé à ma porte. J'étais dans la cour et je préparais le petit déjeuner. Et soudain, je l'ai vu. Il était si grand et j'étais si excitée. J'ai voulu crier. Le président Mao est de retour. 1000 ans de vie pour le président Mao. Je voulais hurler tellement j'étais bouleversée. Beaucoup de gens se sont mis autour de lui parce qu'il racontait plein d'histoires. Il passait beaucoup de temps à discuter avec les gens. Le premier endroit où il s'est rendu lorsqu'il est arrivé à Shaoshan, c'est sur la tombe de ses parents et au sanctuaire de ses ancêtres. Tout ça veut dire que les paysans avaient une place toute particulière dans son cœur.
Alors, comment vous avez décidé un jour de monter ce restaurant et de vous dire « je vais faire le plat préféré de Mao », ce porc gras?
J'ai eu cette idée en 1987. Mon rêve était de recevoir les admirateurs du président Mao. Je voulais voir Pékin et le monde entier à Shaoshan. Et c'est pour cette raison que j'ai développé cette entreprise.
Alors là, vous sortez votre Samsung ultra moderne, Madame Tang. Pour vous montrer des photos. Vous avez quel âge, Madame Tang?
J'ai 83 ans. Je veux vous montrer une très vieille photo de moi quand j'étais jeune, quand je travaillais la terre. Là, c'est moi sur cette photo. J'avais 22 ans. Personne ne peut imaginer que j'ai pu monter mon affaire avec uniquement 17 centimes d'euros en poche. C'était une idée incroyable.
Alors, Madame Tang, vous êtes aussi une star dans votre chambre. Il y a une photo de vous, on dirait une star d'Hollywood avec des cheveux bouclés, colorés.
太好了！
Cette chanson a été écrite dans le dialecte de Shaoshan. Elle a été écrite pour les jolies paysannes de la région, afin qu'elles expriment leur amour du dur labeur et leur gratitude envers le parti. Le président Mao a également formulé une prière à l'attention des femmes chinoises. Il a prononcé cette phrase célèbre : la révolution pourra se réaliser le jour où les femmes chinoises se soulèveront.
Madame Mao, c'est dur d'être l'héritière de Madame Tang, votre mère.
Je dois pérenniser notre business. On a créé nos restaurants grâce à l'influence de Mao et nous devons faire en sorte que cette marque attire de plus en plus de gens. Nous devons travailler avec énormément de gens pour faire fonctionner les 400 restaurants que nous avons ouverts dans toute la Chine. Notre objectif est d'en ouvrir dans le monde entier.
Alors comment vous envisagez justement la conquête du monde avec cette marque Mao.
Le slogan de Mao était « Servir le peuple ». C'est également le slogan de nos restaurants Mao, et nous misons sur nos vertus pour conquérir le monde.
Mais le monde est aujourd'hui un monde capitaliste. Vous pensez que Mao a des choses à dire à ce monde capitaliste ?
Le monde change et quand le président Mao était encore vivant, il incitait tous les habitants de la planète à se donner la main. En allant à la conquête du marché international, c'est ce que nous permettons de faire.
J'imagine que vous connaissez par cœur le texte qu'il a prononcé, Place Tiananmen, en 1949, pour proclamer la création de la République populaire de Chine. Vous pouvez nous le réciter avec l'accent de Mao ?
Tongbaomen, Dongfang, Ninmin Gonghuoguo.
Chine rit et chante à pleine voix. La joie de vivre dans un monde nouveau où la misère disparaît peu à peu.
Monsieur Chen, on est où ici ?
Vous êtes chez moi, dans le village de Shaoshan, dans la province du Hunan.
Alors on est entouré de portraits, de statues, surtout de Mao. Combien vous avez de statues ?
J'ai environ 200 statues de différentes tailles et je possède près de 50 000 badges et près de 200 posters de Mao.
Ça coûte cher de faire une collection d'objets relatifs à Mao et de statues de Mao.
J'ai commencé cette collection en 1993. ça fait 20 ans. Je produis moi-même des statues de Mao et je continue à rechercher des statues anciennes ou des portraits faits par des artistes. Cette collection m'a coûté 1 million d'euros.
Alors, Monsieur Tien, vous parcourez toute la Chine pour aller chercher ces statues de Mao. Est-ce qu'il y a des marchés spécifiquement réservés à la culture rouge ?
Oui, par exemple, à Shanghai, il y a un grand marché d'antiquités et une partie de ce marché est occupée par des vendeurs spécialisés dans les objets relatifs à Mao. C'est une sorte d'endroit réservé à la culture rouge.
Alors, quand on regarde toutes ces statues, on a l'impression qu'elles sont toutes pareilles, mais j'imagine que pour vous, elles sont toutes différentes.
Oui, l'image est la même, mais elles sont faites dans différents matériaux et les tailles sont différentes. En fonction de ces différences, elles sont destinées à des endroits bien précis dans la maison. Certaines sont faites pour le salon, d'autres pour la chambre à coucher, d'autres encore pour le bureau.
Monsieur Tia, c'est pas un peu effrayant de vivre avec toutes ces statues, il y en a partout, de vivre avec Mao?
Je n'ai pas de statue de Mao dans ma chambre, mais dans tous les autres endroits de la maison, oui. Mao est très proche de nous. Il est considéré comme un membre de la famille et nous ne pensons pas que vivre avec lui puisse être quelque chose de bizarre.
Pourquoi vous ne dormez pas avec Mao ?
Parce que si vous mettez une statue de Mao dans votre chambre, ce n'est pas très respectueux. C'est pareil pour les autres religions. Si vous êtes bouddhiste, vous savez que le président Mao a atteint le plus haut niveau de réalisation de Bouddha. Il est au-dessus de tout. C'est pour cette raison qu'il faut disposer sa statue dans le plus important endroit de la maison.
Mao, quand vous vous promenez dans la rue, ici à Changsha, les gens vous arrêtent, vous reconnaissent.
Oui, comme vous pouvez le constater, tous les passants me regardent et ils me reconnaissent comme étant le président Mao.
Alors j'imagine que pour devenir vraiment le président Mao sur scène, ça demande beaucoup de préparation. Vous allez chez le coiffeur, vous allez vous maquiller, vous allez mettre ce petit poireau qu'il a sur le menton.
Je sais que certains autres sosies Mao passent 7 heures, même 8 heures à se maquiller. Mais moi, j'ai juste besoin d'aller chez le coiffeur me faire gonfler un peu les cheveux. La première fois que je me suis préparé à être Mao, ça m'a pris uniquement une heure de maquillage. La seconde fois, ça m'a pris seulement 30 minutes. J'ai mon propre poireau que je colle moi-même et je deviens Mao.
Cette statue, elle a une dimension particulière.
6 mètres de haut et son socle fait 4 mètres de haut.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je pense que c'est un groupe de touristes qui vient se recueillir devant la statue de Mao. Deux d'entre eux portent chacun deux énormes couronnes de fleurs.
On the bowl of the flower, they wrote Chairman Mao is always.
Sur la couronne, il y a un ruban sur lequel est écrit le président Mao nous manquera toujours. Le guide demande au groupe de touristes d'exprimer leur reconnaissance envers Mao et envers tous ceux qui se sont battus à ses côtés. Leur lutte a permis de rendre la vie meilleure aujourd'hui. C'est pour cela qu'on doit s'incliner trois fois devant la statue et en faire le tour trois fois de la droite vers la gauche.
Exactement, c'est qui Mao a fait quoi exactement? Unifier la Chine, établir République populaire de Chine. Ce sont des paroles de la propagande qui a rentré dans la tête des gens depuis leur éducation élémentaire. Il faut avoir un débat pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Par exemple, après le grand bond en avant, on avait dit toujours il y a 3 ans de crise, 3 ans de famine. Maintenant, on sait il y a 30 à 40 millions de morts pendant ces 3 ans. Et ce n'était pas la crise, ni le problème de météo, ni le problème de famine. C'est tout à fait une crise politique. Les morts sont causées par une mauvaise décision politique, par le grand pont en avant, par une tendance idéologique en disant de toute façon on va faire mieux, toujours mieux, et du coup on essaye de forcer les paysans de donner toutes leurs réserves de céréales pour l'État. Et ensuite, il se trouve que les paysans ils n'ont plus rien à manger. Il se trouve aussi que dans les dépôts de riz, de céréales, c'était plein, mais personne n'ose d'ouvrir, donner un ordre, ouvrir ces dépôts pour que les paysans puissent manger. Puisque si on dit on a des choses à manger, ça veut dire qu'ils niaient la réalité qui était rapportée à la direction du parti. Donc ils nient eux-mêmes. C'est tout à fait une erreur politique. Et du coup, on connaît mal qui Mao a fait quoi exactement, puisque on a un souvenir lointain de Mao déjà pour les jeunes, et on a aussi une mémoire qui est complètement déformée. Du coup, il y a Mao comme Dieu qui paraît, Mao comme réalité, et c'est le vide.
Je suis la responsable du bureau des affaires étrangères du gouvernement de la ville de Xiantan. Je m'appelle Madame Chen Liwan.
Alors, Miss Chen Liwan, en 1949, Mao devient président de la Chine et il décide de venir ici, à Xiantan, pour revenir sur les lieux de son enfance. C'est un moment important pour la ville, c'est la mémoire de la ville.
Till now, Chinese people.
Depuis toujours, les Chinois et plus spécialement les habitants de Xiantan et de Shaoshan avons une profonde affection envers le président Mao. Nous éprouvons toujours une grande émotion à sa pensée. Ce n'est pas uniquement parce qu'il a été ce grand homme que nous connaissons, mais aussi parce qu'il n'a jamais oublié les gens de son village et de sa province.
He can also remember the name of his classmates or fellows, and also he shows great.
Quand il a fait escale à Xiantan alors qu'il se rendait à Shaoshan, 10 ans après qu'il ait été au pouvoir, il se souvenait du nom de tous ses camarades de classe.
So in this way, especially as time passed by, they would like to recognize or regard him.
Alors on raconte beaucoup d'histoires sur lui, mais la meilleure façon d'appréhender Mao, c'est de le voir comme un dieu.
There are lots of legends like this in China.
Il y a beaucoup de légendes sur Mao qu'on raconte en Chine. Il y en a deux, par exemple. Tous les habitants du Hunan connaissent bien. Il y en a une qui raconte qu'au moment du 110e anniversaire de la naissance de Mao, le 26 décembre, toutes les fleurs de Shaoshan ont commencé à éclore.
J'en connais une autre qui raconte qu'un jour, on a recouvert le visage de la statue de Mao d'un tissu rouge et que lorsqu'on a retiré le tissu de son visage, le soleil et la lune sont apparus en même temps dans le ciel à 10 heures du matin, ce qui est très rare.
Xi Jiang Yue, Jin Gan San. 山下旌旗在弯，山头固脚相闻。敌军围困万千重，我自岿然不动。赵毅声言鼻擂，更加争执层层。淮阳街上炮声隆，报道敌军晓东。
Vous venez de quelle province ? Vous avez fait un long voyage pour venir ici ?
Je viens de la province de Hanoi et mon voyage en train a duré 16 heures.
C'est-à-dire que vous venez ici faire un pèlerinage ?
C'est un sentiment mêlé à la fois de respect, d'admiration, d'amour et de loyauté. Je ressens beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut ressentir quand on va à la montagne se détendre. C'est profond.
Vous vous souvenez de cette photo ? On voit Mao entouré d'une myriade d'enfants. Vous êtes où, vous, Mao Yushi ?
Je suis derrière cette fille. Et tout près de Mao. J'étais en deuxième année d'école primaire et le garçon qui est juste à côté de lui était mon camarade de classe. La plupart des enfants qui l'entourent étaient plus âgés que moi. J'étais encore petit.
Alors Mao Yushi, vous êtes le maire de Shaoshan. C'est pas difficile de porter le même nom que l'homme qui incarne cette ville, le président Mao.
J'ai les mêmes ancêtres que le président Mao. Lui, il appartient à la 20e génération des Mao et moi à la 21e. Nous avons le même marbre généalogique. Comme il appartient à la génération au-dessus de moi, je dois l'appeler oncle.
Alors on dit qu'à Shaoshan, beaucoup de gens portent le nom de Mao.
La première génération des Mao est arrivée dans ce village il y a 600 ans. Ils ont commencé à cultiver la terre. Depuis, les familles portant le même nom se sont multipliées. Il y a aujourd'hui dans le bas village 70% de personnes qui se nomment Mao et dans le haut village
80%. Alors vous vous souvenez aussi, j'imagine, de l'atmosphère qui régnait dans le village quand, à 14 ans, Mao est venu vous serrer la main.
En 1959, Mao est revenu dans son village natal, comme n'importe quel enfant du pays. Et donc, ça n'a pas été un jour spécial qui aurait mobilisé les habitants du village. Il s'est rendu dans sa maison familiale. Il est allé à la rencontre de ses anciens amis. Puis il est allé à l'école où il avait étudié. C'est là que je l'ai vu. Et quand nous avons appris qu'il devait venir nous voir à l'école, les élèves ont sauté de joie. On était tellement excités de le voir que certains camarades ne pouvaient même plus prononcer un mot. Beaucoup ont pleuré d'émotion. On criait « Que le président Mao vive 100 ans ! Que le président Mao vive 100 ans !» Il était 20 heures et la chemise blanche du président Mao était tachée de sueur. Je lui ai serré la main, prudemment. Tout le monde voulait toucher sa main. Et moi, j'ai senti qu'elle était douce et chaleureuse. Et nous avons pris cette photo qui est devenue célèbre. Mao, entouré de tous ses élèves. Un des élèves lui a donné un foulard rouge, celui que nous portions tous à l'époque. Et comme le président Mao avait le sens de l'humour, il lui a dit « Oh, tu me le donnes ?»
Alors, je me suis renseigné un petit peu sur vous avant de venir vous voir, et on dit que vous êtes celui qui a été à l'origine de la promotion de Shaoshan il y a une vingtaine d'années. Le tourisme rouge est né. Vous avez pris les choses en main ici, à Shaoshan.
Oui, vous pouvez dire ça comme ça. L'économie et la culture se sont développées de façon simultanée. Par exemple, le gouvernement aide financièrement les restaurants qui servent les plats préférés de Mao. Tout ça a créé des emplois.
Oui, parce que ici à Shaoshan, il y a à peu près 400 guides touristiques.
Dans le village de Shaoshan, près de 60% de la population travaille dans une activité relative à Mao. Il y a 5000 habitants dans ce village, ce qui veut dire que 3000 d'entre eux travaillent dans le Mao business. Mais dans la ville de Shaoshan, où vivent 19 000 personnes, seulement 10% de la population travaille dans ce secteur.
What is your favorite red song?
Oh, il y en a beaucoup qui me plaisent. Mais celle que je préfère, c'est L'Orient est rouge. Les paroles, si je m'en souviens bien, disent L'Orient est rouge, le soleil se lève, la Chine naît grâce à Mao Tse-tung.
Thank you. À l'époque de Mao, il y avait beaucoup de gens qui étaient déportés, qui étaient en prison, qui étaient morts par la famine ou par la lutte de classe, soi-disant. Mais globalement, toujours minoritaire. 600, 800 millions de Chinois. À l'époque de Mao, maximum 200, 300, 400 millions subis de déportation. Mais reste plus de moitié qui ne sont pas subis ce genre de tragédie. Beaucoup parmi eux étaient promus, comme le membre du communiste, promus, beaucoup de gens parvenus à ascension sociale pendant la révolution culturelle, qui ont participé les déportations. Par exemple, la dirigeante actuelle, M. Hu Jintao, Wen Jiabao, etc., qui n'a pas subi vraiment la déportation, c'est différent que Deng Xiaoping, Yang Sangkun, l'ancien dirigeant, le dirigeant des années 80. Alors, ce genre de personnes qui ont la nostalgie à l'époque, comme j'ai dit, il ne faut pas penser que tous les Chinois étaient malheureux à l'époque de Mao. Mais non. En plus, il avait un sentiment fort d'appartenance dont aujourd'hui il manque. On chante ensemble comme dans l'église, quoi. L'unité de travail à l'époque n'était pas comme l'unité économique comme aujourd'hui. C'était une société entière dans laquelle il y avait l'hôpital de l'entreprise, l'école de l'entreprise, grand salon de conférence de l'entreprise où on organise le fête. Il y avait l'organisation de partis dans chaque entreprise, syndicat officiel, la Ligue de la jeunesse communiste, l'association officielle de femmes. Aujourd'hui, c'est avec la précarité de travail, l'identité professionnelle est très confuse. Je suis qui ? Voilà, tout ça, ça crée une sorte de nostalgie assez forte pour les Chinois aujourd'hui, qui explique en une grande partie de ce pèlerinage envers Mao, pour aller au village natal de Mao, Shaoshan. Et l'autre chose, c'est qu'il faut ce genre de nostalgie, c'est aussi une forme de protestation vis-à-vis du régime actuelle, la situation actuelle. Alors, ils ont la nostalgie. Mais quand on pose la question sérieusement à eux, en disant que vous voulez vraiment revenir, retourner à l'époque de Mao,
après la pluie, le soleil reparaît à l'horizon. Peu à peu, cols et montagnes virent au bleu.
Merci à Chen Yan, à Zhen Qiang, à Madame Tang et à sa fille, Madame Mao, à Zhang Lun et à Quang Huiming. Merci également à Mao Yushe et à Chen Yiwan. Merci enfin à Zhao Zhongkun, à Yang Yang et à Orange Chen et aux voix de France Culture pour les traductions. Shaoshan, berceau de Mao au propre et au figuré. Un documentaire d'Anne Franchini, Jean-Michel Coqui et Alain Lefkovitch.